Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. C'est pas la joie en ce moment dans les entreprises de la tech où on licencie avec de grosses charrettes. C'est terminé. Le temps béni de la pandémie où la croissance sans fin permettait de recruter sans faire trop attention. Et comment ça se passe chez Apple? Justement, on va voir ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Anthony nous proposera une visite guidée du nouveau HomePod. Ce n'est pas encore tout à fait un test, mais ça permettra de nous faire une bien meilleure idée de la grosse enceinte connectée. Nous sommes le lundi 6 février. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Opération dégraissage dans la Silicon Valley. Tous les grands noms du secteur des technos ont annoncé des plans sociaux mouse costauds. Chez Microsoft, chez Meta ou chez Google, on y est allé à grands coups de 10 000 licenciements et même plus, et la purge n'est pas terminée. Il faut dire que tous ces grands groupes ont embauché à tour de bras pendant la crise sanitaire en croyant que les taux de croissance allaient continuer à s'envoler. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas et le retour à la réalité a été très douloureux. Et pour Apple ? La situation est un peu différente vu que le constructeur a été très prudent pendant la pandémie en ne recrutant que le nécessaire. Du coup, pas besoin de licencier des milliers de personnes. Par contre, Tim Cook n'a pas écarté cette possibilité. Le CEO a expliqué à l'occasion des résultats trimestriels que les licenciements étaient la solution de dernier recours et qu'il ne pouvait pas promettre qu'il n'y en aura jamais. En attendant que cela arrive peut-être, Apple joue la carte d'une gestion au plus serré tout en continuant à recruter dans les domaines les plus stratégiques pour l'entreprise. Les puces développées par Apple pour les Mac sont parmi les meilleures dans leur catégorie. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours trouver des processeurs Intel plus rapides, mais ce sera au prix de la consommation électrique. Qualcomm travaille sur de nouvelles puces à base d'ARM qui pourront équiper de futurs ordinateurs comme les Surface Pro de Microsoft. Et ces ordinateurs pourront peut-être concurrencer les Mac M1 ou M2. En attendant, le développement va bon train visiblement. Qualcomm a annoncé que le processeur Orion a bien avancé et qu'il devrait être disponible dans le courant de l'année. Le processeur et ses cœurs seront intégrés dans le futur système sur puce de Qualcomm. Il aura la lourde tâche de se confronter aux puces M2 qui ont fait un joli petit bond en avant sur le plan des performances par rapport aux puces M1. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le processeur Orion aurait un bon ratio performance par watt. C'est un des arguments clés d'Apple pour vendre ses puces M1 et M2. Petit message de service public, ne tardez pas à faire remplacer la batterie de votre iPhone ou de votre Mac si elle montre des signes de fatigue. Parce que Apple va augmenter les prix de l'opération à partir du 1er mars. Et ça ne sera pas une petite hausse puisqu'on parle quand même de 24€ en plus pour une batterie d'iPhone, de 40€ pour celle d'un iPad et entre 36 et 60€ pour les MacBook. Il y a une exception, c'est l'iPhone 14, où le prix de l'opération n'augmente pas, elle reste à 119€ tout de même. Sur tous les iPads éligibles, le remplacement coûtera 149€ à partir du 1er mars. Bien sûr, si vous avez un contrat Apple Car Plus, ces nouveaux prix ne vous concernent pas puisque le remplacement de la batterie est gratuit. Apple n'a pas avancé d'explication pour cette hausse qui touche d'ailleurs à peu près tous les pays, pas uniquement la France. Après, il est toujours possible de tenter de remplacer la batterie soi-même, d'ailleurs Apple fournit tous les outils nécessaires. Mais si vous avez deux mains gauches comme moi, évitez de vous lancer parce que c'est fragile ces petites bêtes. Si on s'attendait à de nouveaux MacBook Pro et même à des Mac Mini surboostés, un nouveau HomePod n'était pas vraiment sur notre carte de bingo du début d'année. Et encore plus un revival de la grosse enceinte qu'Apple a arrêtée il y a 2 ans. Et pourtant, c'est exactement ce que le constructeur a lancé en fin de semaine dernière. En attendant de savoir si ce HomePod est un reboot faisandé ou une suite honorable, Anthony va faire les présentations. Salut Anthony!
Salut Mickaël, salut à tous.
Ce nouveau HomePod, c'est un cas assez unique chez Apple, celui d'un appareil abandonné il y a des années et qui revient quasiment sans rien changer, enfin dans le design au moins.
Alors un cas de moins en moins unique, cela dit, parce que je viens de finir de tester le Mac Mini qui n'a pas changé depuis 10 ans. C'est vrai que le retour, c'est le retour du mort-vivant, c'est assez nouveau. Qui est drôle, c'est que, on voit que le design studio a vraiment pas forcé son talent, quoi. Sauf, on a un câble amovible maintenant. Et le carton, c'est le carton le mieux ingénieré de l'histoire des cartons d'emballage, quoi. C'est quand même incroyable. un représentant d'Apple nous a quand même expliqué avec une grande passion que le nouveau coloris minuit, parce qu'il faut pas dire noir chez Apple, c'est une toute nouvelle couleur, un truc réclamé à corps et à cri par la clientèle. C'est du noir. Avec un peu de bleu.
Oui. Hein? Voilà.
Mais c'est quand même intéressant parce qu'à la fin, ils ont changé pas mal de choses. Il a, le HomePod 2 a la surface tactile renfoncée, le pied plat, comme le HomePod Mini. Il a récupéré une puce d'Apple Watch, comme le HomePod Mini, vous allez voir, c'est un thème. Il est compatible Thread et UWB, comme le HomePod Mini. Ouais. Il a des capteurs de température et d'humidité. C'est bon, vous l'avez dit. Bref, voilà. C'est le même HomePod, mais en différent.
Alors, c'est encore trop tôt pour parler de la qualité audio de ce HomePod. Il faudra attendre ton test pour ça. Mais d'après tes premières écoutes, ça donne quelle impression? Surtout que cette nouvelle enceinte en a moins de composants dans le coffre que le précédent HomePod.
Ouais, le HomePod 2, il a toujours un haut-parleur de grave de 4 pouces qui est pointé vers le haut, comme le modèle original. Ouais. Par contre, il a que 5 haut-parleurs d'aigus qui sont arrangés à 360 degrés, alors que le modèle original en avait 7. Ouais. Apple à l'époque parlait, pour le premier modèle, parlait de traitement audio informatique. Maintenant, il parle de traitement audio informatique avancé. L'adjectif compte. Et un représentant d'Apple nous expliquait, c'était assez intéressant, qu'ils ont entraîné leurs algorithmes sur les 10 000 morceaux les plus populaires du catalogue d'Apple Music. C'était pas un chiffre qu'on avait vu jusque-là. Mm-hmm. Alors, je vais pas précéder mes conclusions parce que ça fait que quelques heures que j'écoute les HomePod de manière un peu attentive. Mm-hmm. Mais on entend quand même bien comment les avancées justement du logiciel compensent le recul, disons, relatif du matériel. Ouais. Il y a toujours beaucoup de basses qui sont pas toujours super bien contrôlées. Il joue toujours beaucoup avec les réflexions sur les murs. Ça donne vraiment l'impression que ça sonne beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux que l'enceinte. Il y a toujours une présence folle. La voix, le piano, c'est des choses il sait faire. On peut pas dire que ça sonne incroyablement mieux. Je pense que ce serait faux, mais ce serait tout aussi faux de dire que ça sonne pire.
On va rester encore un peu sur la fiche technique. Le nouveau HomePod conserve le Wi-Fi 4, ce qui n'est pas de la première fraîcheur. Mais est-ce que c'est si grave finalement ?
Oui, il a la puce S7 de l'Apple Watch Series 7. Les choses sont bien faites. Et les Apple Watch, elles se sont toujours contentées du Wi-Fi 802.11n, c'est-à-dire le Wi-Fi 4. Ouais. Pour vous donner une idée, Steve Jobs est encore vivant quand le Wi-Fi 4 a été standardisé. Donc c'est pas tout nouveau.
C'est vrai.
Alors les gens d'Apple qui parlent de cette puce, ils le disent pas explicitement, mais enfin ils finissent par utiliser plus ou moins le même argument que Sonos. Et Sonos dit que ça suffit largement, et vous savez quoi, ils ont complètement raison. C'était la première norme qui avait le MIMO, c'est ce qui permet d'utiliser plusieurs antennes à la fois. Il y a à la fois la bande des 2,4 et la bande des 5 GHz. La bande des 2,4, c'est celle qui permet d'avoir une bonne portée. C'est important quand on parle d'enceinte connectée, qu'on va mettre un peu partout chez soi. La bande des 5 GHz, c'est celle qui apporte des débits. Quand on est à plusieurs centaines de mégabits par seconde de débit, c'est largement suffisant. Même pour faire du 7.1.4, ce qui est le format des pistes Atmos, et donc a fortiori pour faire de la stéréo. C'est assez amusant sur la fiche technique de voir un recul comme ça, c'est pas toujours le cas sur la fiche technique d'Apple, mais enfin, à la fin, on s'en fout.
Oui. Le HomePod, c'est une enceinte, mais c'est aussi un produit connecté, et là, Apple met le paquet avec, comme tu disais tout à l'heure, la compatibilité Thread et Matter, des capteurs d'humidité et de température, la fonction de reconnaissance des sons, qui va arriver au printemps, et puis, évidemment, il y a Siri, qui marche plus ou moins bien.
Ouais, alors le HomePod Mini fait tout ça pour un tiers du prix, mais quelque part c'est le moins qu'on puisse attendre d'une enceinte connectée en 2023, ils n'avaient pas le choix. Ils ont retiré des micros, mais je suis toujours bluffé par la capacité du HomePod à entendre quelqu'un chuchoter « Dis Siri », alors que la musique est à fond, c'est même légèrement flippant. La puce Thread, c'est bien, puisqu'on pourra commander les nouveaux appareils connectés avec les ponts Thread et tout ça, enfin c'est... Il le fallait, ça y est.
Ouais.
Je suis un peu plus circonspect sur les capteurs de température et d'humidité. Ils ont pas une résolution temporelle folle, c'est-à-dire qu'ils prennent pas la température toutes les 30 secondes, quoi.
Ouais.
Et je les trouve étonnamment imprécis. Donc ça suffira très probablement pour déclencher des automatisations, hein, s'il fait telle ou telle température, allume, éteint le chauffage. Mais enfin, ça va pas remplacer une station météo.
Ouais. Au lancement de ce nouveau HomePod, Apple a donné l'impression que le modèle de première génération n'avait jamais existé. Comment expliquer finalement qu'Apple est revenu sur cette décision ?
C'est même mieux que ça. Un représentant me disait le plus sérieusement du monde que le design du HomePod 2 était inspiré par le modèle original.
Inspiré, oui.
Ce que raconte Apple est intéressant. Apple explique qu'ils avaient abandonné le HomePod original pour se concentrer sur le HomePod Mini. et ouais. qu'ils étaient un peu surpris par le succès du HomePod Mini, et puis qu'après quelques années, les clients se sont dit « bah pourquoi vous ne faites pas plus gros ?» Ils se sont dit « bah écoutez, on va refaire le gros HomePod ». Alors évidemment, c'est du blabla de marketeur, hein, tout ça, mais à la fin, il y a quand même un fond de vérité, et la vérité, c'est qu'ils ont réinventé le HomePod à travers le HomePod Mini. Ouais. Le HomePod original, c'était une super enceinte qui accessoirement était connectée. Le HomePod 2, comme le HomePod Mini, c'est d'abord un concentrateur HomeKit, d'abord quelque chose qui répond aux requêtes Siri, et accessoirement une super enceinte. Ouais. Quelque part, les appareils sont mal nommés. Le petit HomePod, c'est le HomePod par défaut, c'est lui qui devrait s'appeler HomePod, et le gros HomePod, c'est celui qu'on prend si on veut vraiment insister sur la qualité sonore, et lui, on devrait l'appeler HomePod Maxi.
Ouais. Tes premières impressions, finalement, on part dans du positif, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ?
Le produit lui-même, il est peut-être très bien, on en reparlera dans le test, mais enfin, il est toujours aussi difficile de demander des titres dans d'autres langues que le français à Siri, ce qui est embêtant pour un truc qui est censé jouer de la musique. Et il y a beaucoup de requêtes plus générales, notamment quand on a les mains prises, on est en cuisine ou on se balade chez soi. Il y a pas mal de requêtes où Siri te dit « bah non, va falloir sortir ton téléphone pour faire ça
ouais. ».
Quelque part, j'ai envie d'un HomePod avec un écran, quoi. Et les gens qui nous écoutent, qui ont un Amazon Echo Show ou un Google Nest Hub, ils savent très bien de quoi je veux parler. Ça, c'est quelque chose qui manque. C'est un peu pareil pour HomeKit, c'est encore très fragile, je trouve. Et d'ailleurs, ils ont repoussé la nouvelle architecture à la fin du printemps, hein, t'en parlais pour la reconnaissance des sons. Ça a été présenté, mais ça n'est pas là. Le HomePod peut faire office de concentrateur, clairement, mais à la fin, le seul concentrateur fiable et robuste, c'est l'Apple TV branché en Ethernet.
Ouais.
Et donc, quand tu fais la somme comme ça des fonctions, le son, oui, c'est très bien, mais tu pourrais mettre tout un tas de petites astérisques pour dire mais. Siri, c'est très bien, mais. HomeKit, c'est très bien, mais. Les capteurs, c'est très bien, mais. Sauf qu'à la fin, cette enceinte, elle vaut 349 balles. Et c'est pas mais. C'est 349 euros. Toujours.
Ouais.
C'est le même prix que le modèle original, ça n'a pas baissé. Alors, les plus grands fanboys nous expliqueront qu'avec l'inflation, en fait, le prix a baissé.
Oui.
D'accord. Oui. Sauf qu'à la fin, c'est aussi le prix d'une paire de HomePod Mini. Et franchement, une paire de HomePod Mini, c'est pas une mauvaise installation. Et c'est presque plus plaisant, plus amusant, notamment avec le tout spatial, qu'un HomePod tout seul. Mmh. 349 euros.
Eh bien, merci pour ce premier retour sur le HomePod 2. Ton test est prévu dans les prochains jours. En attendant, profite bien d'être payé pour écouter de la musique. Salut Anthony.
Mon métier est tellement difficile. Salut Mickaël.
Quant à nous, merci de nous avoir écoutés ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.